Pause Famille, une émission avec Bénédicte Dujonquois, conseillère conjugale et familiale. Elle répond aux questions d'Antoinette Martin.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Pause Famille. La semaine dernière, nous avons abordé le thème de la séparation dans le couple qui émerge un jour chez un conjoint et qui peut aller ou non à la séparation effective. Alors Bénédicte Dujonquois, se séparer, c'est tout un chemin.
Oui, c'est tout un chemin. Et sur ce chemin, il y a souvent d'abord l'incrédulité dans un premier temps. Il y a des couples qui viennent me voir et l'un dit « je veux me séparer » mais il, elle, ne veut pas l'entendre. Et finalement, l'entretien avec eux sert à faire entendre la détermination de celui qui veut se séparer. Et puis, quand il n'est plus possible de nier cette réalité, il y a une espèce de chaos émotionnel, une traversée très très douloureuse qui fait que la personne, elle est assez instable intérieurement.
Alors, vous parlez d'un chaos émotionnel.
Oui, alors parmi toutes ces émotions, hein, c'est une espèce de chantier, il y a deux peurs principales. C'est la peur qui est liée à la perte du sentiment de sécurité que pouvait procurer le foyer, la peur aussi de ne pas pouvoir faire face, l'avenir c'est une menace. Et ce qui est important de réaliser, et ce que je m'emploie à faire en général dans cette consultation, c'est le complet décalage qui existe entre les conjoints. Il y en a un qui est déjà rentré dans un processus de deuil de la relation, parfois depuis longtemps, qui a déjà commencé à se projeter ailleurs. J'y crois plus, j'ai fait tout ce que j'ai pu, il n'y a pas d'autre solution, je pars. Et pour l'autre, en fait, une fois qu'il y a eu cette annonce et qu'il voit la décision irrémédiable de l'autre, et ben là, va commencer vraiment un chemin de deuil douloureux parce qu'en fait, tout simplement, il se sent quitté, abandonné. Et il va falloir regarder la réalité.
Alors, est-ce qu'il y a, vous avez parlé de peur, il y a de la colère aussi dans tout ça?
Voilà, dans ce chaos émotionnel que vous évoquiez, il y a aussi de la colère, comme d'ailleurs dans tout processus de deuil souvent. Cette colère, elle est d'abord dirigée vers le conjoint qui demande la séparation. Voilà, je suis lésée, je suis trahie, abandonnée, je me suis fait avoir, c'est un sentiment qui est légitime, mais il va falloir le dépasser, en tout cas l'apprivoiser. Par exemple, que ça n'aille pas jusqu'à la vengeance. Alors, j'ai vu des femmes qui allaient jusqu'à pister, suivre le conjoint, enfin vraiment quelque chose qui était très, très intrusif.
Non, pourquoi juste est-ce qu'il faut l'apprivoiser ce...
Ben parce qu'on ne peut pas rester dans sa colère. On ne peut pas rester dans une colère tout le temps, toute notre vie, ce n'est pas possible. Il va falloir passer à autre chose. Et parfois d'ailleurs, on va passer de la colère contre l'autre à de la colère contre soi-même. J'aurais dû, j'aurais pas dû, etc. Et donc après, bah dans ce chaos émotionnel, la peur, la colère, tout ça, ça s'entrechoque. Il y a aussi de la tristesse, hein, et quelquefois d'ailleurs un syndrome dépressif. Je pense à des femmes qui ont vraiment perdu le sommeil, perdu le poids. Je parle de femmes, mais je parle aussi d'hommes.
Alors peur, colère, tristesse, est-ce qu'il peut y avoir aussi un manque de confiance en soi qui s'installe?
Bien forcément, parce que quand on a bâti sa vie sur une relation aimer, être aimé, ben du coup, on va être un peu en doute sur sa capacité à aimer, à être aimé. Voilà, je peux m'envisager comme une mauvaise personne, en tout cas pas une bonne personne, surtout si l'autre me dénigre. Une espèce de culpabilité. Et l'abandon, hein, de la séparation, provoque une perte d'estime de soi. Des femmes qui disent « mais moi, de toute façon, je ne serai plus rien, j'ai plus envie de faire des choses parce que tout le monde me regarde comme ça. » Puis voilà, oui, une perte d'estime de soi.
Alors, vous nous disiez que souvent, il se peut que l'un soit déjà parti. Et alors, pour l'autre, est-ce que ce processus d'acceptation de la réalité peut prendre du temps?
Oui, et d'ailleurs, certaines personnes veulent aller trop vite. Des conjoints qui ont décidé la séparation, ils veulent quelquefois aller trop vite. Je leur dis « mais attendez, prenez le temps quand même d'expliquer et de clore cette relation. » Parce que l'épreuve de la séparation, de toute façon, alors pour le conjoint qui quitte ou celui qui est quitté, c'est une traversée au long cours. Et donc, aller trop vite, ça voudrait dire que, ça y est, on passe, et puis on se reconstruit, et puis voilà. Non, ça ne se fait pas tout seul.
Alors, il y a des cas peut-être où ce processus a du mal à se vivre.
C'est vrai que moi, je rencontre des couples parfois en grand conflit avec beaucoup de violence. Il y a de la remise en question personnelle, il y a des dossiers lourds, des contentieux anciens, vous savez, des trucs jamais réglés, beaucoup de colère. Et du coup, la séparation, elle va être violente, comme l'a été d'ailleurs la vie commune. Et une grande difficulté à rompre le lien, même s'il est néfaste, voire toxique par moments. Et donc, c'est pour ça que dans ces couples où il y a vraiment de la difficulté, je propose toujours que les personnes se fassent accompagner personnellement, vraiment pour faire le clair dans leur vie.
Alors, vous parlez d'un accompagnement personnel. Oui, mais qu'est-ce qui se passe quand la séparation n'est pas du tout digérée par celui ou celle qui est quitté ?
Oui, je me souviens d'une femme qui est venue me voir en me disant « Moi, j'ai quitté mon mari il y a 10 ans. Je réalise que je suis en survie. Pendant toutes ces années, j'ai ressassé colère et ressentiment. De toute façon, il m'avait trahi, etc. J'étais jalouse, je suis toujours jalouse de le voir continuer son chemin avec une autre femme 10 ans après. J'ai toujours pas fait le deuil de ce mariage. Et en fait, ce que révèle ce témoignage, hein, c'est que dans la séparation, il y a un manque de l'autre, une espèce d'attraction, parfois un peu troublante, et qui est de l'attachement.
Alors, qu'est-ce que vous entendez par l'attachement ? C'est l'attachement. La personne a fait le deuil de la personne quand même. Et voilà, quelle est la différence ?
Alors, l'attachement, on a fait le deuil de la personne, quoique l'attachement, c'est le lien avec l'autre dont je suis séparée et qui va passer par des contacts directs, téléphone, majoritairement pour des questions financières ou des rencontres avec les enfants. Enfin, je pense à ces contacts chez le notaire, le banquier, les fêtes familiales. Et donc, si j'alimente cet attachement, si j'en fais, si je n'ai pas quand même accepté la réalité que cet attachement, il va être autre, ça va plonger l'un des deux, ou les deux d'ailleurs, dans une véritable confusion. Je pense à une femme qui m'a dit, mon mari l'a quitté le domicile, et bien qu'étant lié à une autre femme, il voudrait qu'on reste amis. Mais moi, à chaque fois que je le vois, je suis perdue, je ne sais plus où j'en suis. Donc cet attachement, il existe, mais il faut le revoir.
Et il existera toujours en fait.
Surtout s'il y a des enfants, bien sûr.
Et alors, est-ce que c'est une illusion de penser qu'un lien amical puisse perdurer après une séparation ?
Il me semble qu'il est difficile de passer d'une relation conjugale à une relation amicale. En tout cas, ce n'est pas possible du jour au lendemain. Bien sûr, ce n'est pas ce que nous renvoient le cinéma et les magazines où tout se passe très, très vite. Non, je pense que vraiment, il y a besoin d'un sas pour acter la séparation, justement à cause de cette notion d'attachement qui évolue. Et en fait, pour moi, la seule solution, c'est que la séparation s'accompagne d'une vraie distance, c'est-à-dire de renoncer à tout contact personnel avec l'autre, ce qui est impossible quand il y a la garde alternée avec de jeunes enfants.
Alors justement, comment faire dans ce cas-là ?
Alors moi, ce que je propose souvent, c'est vraiment de mettre du cadre dans le cadre, c'est-à-dire ne parler que des enfants, ne pas faire comme si on était toujours ensemble, éviter de se donner des nouvelles de sa famille, de sa belle-famille, etc. En tout cas, dans un premier temps, ça demande vraiment de la vigilance et du respect. Je pense à une femme qui a quitté son mari et puis pour elle, la garde, quand elle récupère l'enfant ou quand elle donne l'enfant à son mari pour le week-end, elle voudrait papoter, elle raconte, etc. Et lui, il n'en est pas là, il est très très meurtri. Donc il faut du temps et lui me dit, mais moi je ne suis pas du tout prêt à devenir ami avec elle.
Oui, donc en fait, c'est pour éviter de se séparer sans se séparer, ce que vous nous dites.
Exactement. Ça, c'est très, très sensible chez certains jeunes couples que je rencontre. Ce qu'on appelle les ex, c'est pas très joli, de chacun joue en permanence les troubles faits. Hein. Elle prend des pots avec son ex et elle me dit qu'il n'y a plus rien entre eux. Mais enfin, moi, je ne comprends pas pourquoi ils ont besoin de se voir comme ça. Ou bien, maintenant, lui, il passe du temps, ou elle passe du temps avec le père ou la mère des enfants au téléphone. Le vendredi soir, moi je trouve que c'est trop long, 22h dans notre chambre, c'est beaucoup trop long.
Alors on va faire d'autres émissions sur ce thème qui est complexe, mais juste pour conclure, est-ce qu'une séparation peut se vivre de façon apaisée ?
Oui, quand on accepte le temps, et puis quand on se pose des questions sur les dysfonctionnements de la relation, comment je m'y suis prise, quelle c'est toujours pareil, ma responsabilité.
Merci Bénédicte Dujonquois. Je rappelle à tous que vous pouvez réécouter l'émission dans Pause Famille, en podcast, et trouver les coordonnées de Bénédicte Dujonquois sur le site cabinetraphaël.fr. À vous tous, merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau thème. Bonne semaine !